Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les directeurs d'EHPAD auront-ils le droit de récolter les procurations des personnes âgées pour faciliter leur vote pour les municipales? Une circulaire est diffusée en ce sens en ce moment, mais une association estime qu'elle est contraire au code électoral. Vous comprendrez pourquoi dans un instant.
Le gouvernement français continue donc de prendre des mesures face à l'épidémie, mais refuse de mettre le pays en quarantaine. En Italie, pourtant, des médecins veulent des mesures encore plus sévères. Vous l'entendrez.
Nous reviendrons également sur les manœuvres de Vladimir Poutine en Russie. Il souhaite pouvoir se représenter pour deux nouveaux mandats jusqu'en 2036, plus longtemps donc que Staline.
Et puis nous irons en Égypte où le nombre d'habitants dépasse les 100 millions. La natalité n'y est pas du tout contrôlée.
Après ce journal, Frédéric Saïs reviendra sur les municipales à Paris et la bataille de l'alternance entre Rachida Dati et Agnès Buzyn. Et revoilà donc une nouvelle circulaire Castaner sur les élections municipales de dimanche prochain. Envoyée en ce début de semaine au préfet, elle permet aux directeurs d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, de récolter plusieurs procurations des personnes âgées. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, estime que cela pourrait limiter la propagation du coronavirus sans pour autant baisser la participation électorale. Mais la méthode irrite l'Association de défense des libertés constitutionnelles. Elle l'estime contraire au code électoral. Elle vient donc de déposer un recours en référé devant le Conseil d'État et lui demande d'annuler cette circulaire. Son avocat Jean-Baptiste Souffron s'en explique.
Ce que dit précisément la circulaire de Christophe Castaner, c'est que dans les hébergements collectifs accueillant des personnes vulnérables, la désignation des directeurs de ces établissements est recommandée pour recevoir les procurations. Écoutez, ce n'est pas ce qui est prévu par le code électoral. Aujourd'hui, chaque citoyen peut avoir une procuration. Mais quand il s'agit d'en avoir plusieurs, 10, 50, 100, ça peut entraîner des manœuvres ou des fraudes électorales. C'est pour ça que depuis toujours, c'est quelque chose qui est surveillé. Et qu'aujourd'hui, pour avoir plusieurs procurations, il faut être un officier de police judiciaire et être habilité par un magistrat du tribunal judiciaire. Ce sont deux conditions qui sont obligatoires. Et là, le ministère, rien de moins, dit non mais finalement, passons-nous-en, c'est pas grave. Au fond, les directeurs d'EHPAD peuvent parfaitement prendre des procurations. Mais d'abord, c'est totalement contraire à la loi. Et puis surtout, on se demande bien comment, dans ces conditions, garantir la sincérité du scrutin. C'est pourquoi l'Association de défense des libertés constitutionnelles a tenu à saisir le Conseil d'État et nous demandons la suspension de cette circulaire.
Des propos recueillis pour France Culture par Stéphane Robert. Les municipales contestées donc, ou en tout cas leur fonctionnement à l'heure du coronavirus. Dimanche, des mesures sanitaires seront mises en place dans les bureaux de vote. Nettoyage régulier, stylo personnel si possible, assesseurs plus nombreux. Des complications que ne connaîtront pas 66 communes en France. Depuis les années 2000, en effet, elles sont équipées de machines à voter électroniques. Exemple dans les Hauts-de-Seine à Colombes où s'est rendu Anne Fauquemberg.
Je vote blanc, il indique bien le vote que j'ai effectué et je dois valider. Et il y a ce petit bip-là qui enregistre le vote.
À la démonstration, Abdel Aswan, le directeur de l'administration générale de la ville de Colombes. Elles sont en préparation, les machines à voter. 51 pour 48 bureaux de vote, des automates électroniques qui alimentent régulièrement la controverse entre la droite et la gauche, le coronavirus. Mais cette année, tout le monde d'accord, poursuit le fonctionnaire.
Pas de bulletin de vote à toucher, pas d'enveloppe de scrutin à toucher. Aucun scrutateur. Le dépouillement se fait informatiquement, hein. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et le ticket sort avec les résultats instantanément. Effectivement, on aura moins de problématiques, en tout cas de santé publique.
L'une de ces machines est exposée à l'accueil de la mairie. Daniel est venu se refamiliariser. Cette retraitée n'est pas convaincue.
Tout le monde appuie sur les boutons, c'est exactement la même chose.
Ça vous rassure pas ?
Mais pas du tout, mais le coronavirus me fait pas peur, donc c'est pas ça le problème, c'est l'appareil à voter par lui-même.
Le Conseil constitutionnel a en effet repéré des résistances psychologiques chez les citoyens et depuis 2007, un moratoire a été instauré sur la machine à voter électronique, mais la crise actuelle rebat les cartes, estime Bruno Cotrez du CEVIPOF.
Il y a là une problématique qui est une problématique qui va devoir faire l'objet de réflexions. Peut-être faudra-t-il aussi revenir sur la question du vote par correspondance qui était possible ou davantage pratiqué à une époque en France et finalement on a préféré le vote par procuration et évidemment le vote électronique.
En attendant les conclusions pour lever les réticences dimanche, du gel hydroalcoolique devant chaque isoloir et un nettoyage de la machine toutes les 30 minutes.
C'était un reportage d'Anne Fauquemberg à l'aube d'un conseil des ministres qui sera sans doute sous le signe du coronavirus. Le ministre de la Culture, Franck Riester, est toujours confiné chez lui. Test négatif en revanche pour la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui avait un doute. Le coronavirus jusqu'au sommet de l'État et le gouvernement qui prépare les esprits à une accélération de cette épidémie. Ce n'est que le début, disait hier soir Emmanuel Macron, alors que 1784 cas en France sont confirmés. 2% des personnes touchées en sont mortes. Le président de la République exclut toutefois des mesures de confinement aussi drastiques qu'en Italie. Écoutez.
Aujourd'hui, il n'y a pas lieu de prendre des décisions de cette nature. Si demain ou après-demain, il y avait lieu de le faire pour telle ou telle raison, nous l'expliquerions et peut-être les prendrions-nous. Et donc tout dépend de la nature et de l'évolution de l'épidémie. Donc nous devons nous adapter et accepter aussi que cette doctrine s'adapte. Aujourd'hui, pour la France, ça n'est pas nécessaire d'aller plus loin que ce que nous sommes en train de décider.
Alors la situation n'est pas tout à fait la même en Italie où 631 personnes sont déjà mortes, dont 131 rien qu'hier. La barre des 10 000 personnes contaminées a également été franchie. Le taux de mortalité s'approcherait donc en Italie des 6%. Certains élus et médecins demandent des mesures de confinement encore plus sévères, Louise Baudet.
Chiudiamo tutto, fermons tout. Seule façon de sauver un système de santé déjà saturé, alerte le président de la Lombardie, Attilio Fontana.
On arrive vraiment à la limite maximum. On fait des miracles. En un peu plus de 10 jours, on a ouvert plus de 200 lits de réanimation. Mais malheureusement, les besoins sont au-delà de ce que nous pouvons réaliser. Et il est clair que la situation devient dangereuse.
Les hôpitaux lombards submergés, nouvelle d'autant plus inquiétante que le système de santé italien est à l'image du pays, coupé en deux. Giuseppe Moccia vit à Naples après plusieurs années passées dans le nord de l'Italie.
10 000 malades à Naples, ce n'est pas comme 10 000 malades à Milan. Là-bas, le système de santé est très efficace et très moderne. Ici, notre système sanitaire est beaucoup moins performant et c'est sûr qu'il pourrait être complètement dépassé.
Le coronavirus frappe de plein fouet la péninsule. Il agit aussi comme un révélateur de ses failles, estime Daniele Manusia, qui habite Rome et entend positiver.
L'Italie est un pays. Le système de santé italien est en crise depuis des années, avec de moins en moins d'investissements. J'espère que paradoxalement, cette crise aura un effet positif, qu'elle va nous rappeler qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas toujours faire des économies.
Un débat qui pourrait rebondir en France, où l'hôpital public se plaint depuis des années d'un financement sous-dimensionné.
Et actuellement, toute l'Union européenne est touchée par ce coronavirus. Lors d'un sommet européen d'urgence organisé hier par visioconférence, il a été décidé de débloquer 25 milliards d'euros pour mieux coordonner la lutte. La Commission européenne va également proposer un assouplissement temporaire des règles sur les créneaux aéroportuaires. Cela éviterait les vols à vide et aiderait donc le secteur aérien affecté par les conséquences du coronavirus. Nous reparlerons de ces conséquences. Vues par les scientifiques et les historiens, ce sera à 8h20 avec les invités des matins.
Mais en attendant, il est 8h08 sur France Culture. Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2036, Clara.
C'est désormais tout à fait possible, Guillaume, car le président russe est en train de faire modifier la Constitution. Une réforme adoptée hier par les députés de la Douma pourrait le garder en poste jusqu'en 2036. Elle pourrait réinitialiser en tout cas la règle des deux mandats consécutifs pour permettre donc à Vladimir Poutine de se représenter. Une tactique décryptée pour nous par Michel Elcheninov, philosophe spécialiste de la Russie.
Je pense qu'on est dans une stratégie poutinienne qui mène la société de surprise en surprise. D'abord l'annonce d'une réforme constitutionnelle le 15 janvier, un changement de Premier ministre, une volonté de rééquilibrer les pouvoirs et tout d'un coup, de manière absolument imprévue, l'idée au contraire de redonner de la force au pouvoir présidentiel. Ces manœuvres deviennent tellement complexes finalement que la société russe finirait par se dire Poutine et qui d'autre ? En 2036, Vladimir Poutine aurait 84 ans, ce qui en fait un règne plus long que celui de Brejnev, plus long que celui de Staline, un règne finalement à la mesure de la transformation politique que veut imprimer Vladimir Poutine à la Russie, qui est de proposer un nouveau mode de gouvernement et de pouvoir, une démocratie de plébiscite fondée sur l'acclamation permanente d'un grand homme.
C'était Michel Elchaninov, auteur de l'ouvrage Dans la tête de Vladimir Poutine, interrogé pour nous par Franck Madvon. Lui rêve de se hisser au sommet des États-Unis et se rapproche un peu plus de l'investiture démocrate. L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, consolide son avance sur Bernie Sanders. Il a remporté cette nuit les primaires du Mississippi, du Missouri et du Michigan. C'est une décision rare que certains ont jugée surprenante. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve l'accord conclu entre les États-Unis et les talibans en Afghanistan. Un accord qui prévoit un retrait militaire américain en échange d'une promesse des talibans de participer à des négociations avec le gouvernement de Kaboul. Les talibans s'engagent aussi à bannir tout acte de terrorisme. Le terrorisme et ses victimes, une journée européenne leur est dédiée en ce 11 mars. Journée adoptée cette année par la France, en hommage aux victimes mortes en France et aux Français tués à l'étranger. Cette date, Margot Delpierre, fait écho à plusieurs événements.
Derrière le 11 mars, deux références. Ce jour-là, en 2004, a été commis l'attentat à la gare d'Atocha à Madrid, faisant 191 morts. C'est aussi la journée européenne des victimes du terrorisme, une façon pour l'État français de montrer sa solidarité avec les autres membres de l'UE. Cette date fait aujourd'hui consensus entre les associations. Ça ne veut pas dire que les hommages propres à chaque attentat dans chaque ville disparaissent. Ça ne veut pas dire non plus que cette journée est vide de sens. Le gouvernement veut faire entrer ses victimes dans la mémoire nationale, donner à cette date une importance comparable aux commémorations des grands conflits contemporains. Une date unique pour de multiples événements, là où plusieurs coexistent pour la Seconde Guerre mondiale. Cette journée a été pensée avec les associations. Elles sont tombées d'accord sur un lieu neutre, le Trocadéro, pour ne pas donner plus d'importance à un attentat qu'à un autre. La réflexion est donc collective et la douleur encore vive. L'une des trois associations niçoise qui devait participer à la cérémonie parisienne a annulé sa venue. Promenade des Anges regrette la présence d'un haut fonctionnaire. Il était chef de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes à l'époque de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016. Il a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur les éventuelles failles dans le dispositif de sécurité ce soir-là.
Et je précise que la cérémonie aura lieu cet après-midi à Paris, au Trocadéro. Elle sera présidée par Emmanuel Macron en présence du roi d'Espagne. Le réquisitoire a été virulent hier au procès Fillon. Le procureur a réclamé de la prison ferme pour l'ancien Premier ministre François Fillon. 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Les procureurs ont demandé 3 ans avec sursis contre Pénélope Fillon, 2 ans avec sursis, 20 000 euros d'amende à l'encontre de l'ancien suppléant Marc Joulot. Aujourd'hui, la défense va plaider la relaxe. Partons maintenant, comme promis, en Égypte, qui compte depuis près d'un mois maintenant 100 millions d'habitants et une surnatalité inquiétante. La population augmente de près d'un million de personnes tous les 6 mois. Les naissances ne sont pas toujours contrôlées et les plannings familiaux ont vu leur budget drastiquement réduit ces dernières années, comme en témoigne ce reportage de Martin Roux.
Assise sur un banc face au planning familial d'Imbaba, en quartier populaire du Caire, Anan Mohamed attend une consultation pour obtenir des pilules contraceptives.
J'avais 4 enfants et le 5e n'était pas voulu. Aujourd'hui, 5 enfants, c'est très difficile financièrement.
Des difficultés financières qui pèsent de plus en plus sur le désir d'enfants des jeunes couples. Près d'une 50aine de femmes consultent ici chaque jour. Docteur Sahar, la directrice du centre, constate une évolution des mentalités.
Aujourd'hui, les jeunes femmes nous disent qu'elles veulent seulement 2 enfants, ou au maximum.
Pour soutenir cette tendance, le gouvernement égyptien limite depuis un an les aides sociales au-delà du 2e enfant. Les médias ont, eux, relayé une campagne de sensibilisation. Mais pour l'anthropologue Ania Cholkami, il faut investir davantage dans les plannings familiaux.
L'information et la sensibilisation, c'est très bien, mais il faut des infrastructures. Il y a un taux énorme de grossesses non désirées. Cela veut dire que les services de santé ne sont pas suffisants.
Depuis 2018, l'Union européenne et les États-Unis ont investi près de 48 millions d'euros pour les plannings familiaux. La même année, le taux de fertilité est tombé de 3,5 à 3,1 enfants par femme. Mais même si cette tendance se confirme, la population devrait, elle, continuer d'augmenter pendant plusieurs années. 60% des Égyptiens ont moins de 30 ans et près d'un million de couples se marient chaque année.
C'était notre correspondant au Caire en Égypte, Martin Roux. Revenons en France métropolitaine à présent, où 6 départements de l'Ouest sont classés en vigilance orange crue ce matin. Cela va de la Gironde à la Vendée, du Nord à l'Eure. Des averses tomberont encore ce matin sur le nord de la France. Ailleurs, les éclaircies seront belles. Avec 12 degrés dans la matinée à Lille, à Rennes et à Lyon, 13 à Paris, à Strasbourg et à Bordeaux. Et puis comptez 16 degrés déjà à Montpellier, Marseille ou Nice.
Merci Clara Lecoq.